Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Avec nous, Nathalie Ouellet, qui est astrophysicienne et coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Mme Ouellet, bonjour.
Salut.
Sais-tu quoi? Je sais pas pourquoi, là, je te dis ça à toi, Nathalie. Là, je pense qu'aujourd'hui, je me rase la barbe. Les astres sont alignés, là, je t'écœuré, je suis tanné du poil d'en face. Lundi matin, je rentre frais rasé.
Ça fait combien de temps que tu la laisses pousser?
Je sais pas, mais assez pour avoir l'air du Père Noël, tu sais. Là, c'est assez.
Je t'ai pas reconnu avec une barbe. Moi, la dernière fois qu'on s'est vu, t'avais pas de barbe.
Oh, tu rates rien. Avec ou sans, là, c'est pas mal pareil. Parle-moi de ce télescope James Webb.
Oui, donc j'en ai glissé un mot en janvier quand j'ai parlé de toutes les missions spatiales qui s'en venaient cette année, qui m'excitaient énormément. Et c'est sûr que James Webb, j'ai un petit faible pour ce télescope spatial, cette mission, parce que je fais partie de la mission. Je suis la coordonnatrice scientifique au Canada pour la mission. Je suis un peu le pont entre l'équipe scientifique et le grand public. Donc aujourd'hui, cool. Je fais ma job, je fais ce pont-là. Et c'est un peu comme le successeur du télescope Hubble. Tu connais bien Hubble?
Oui, madame.
Oui, c'est probablement le télescope le plus célèbre au monde. Il y a 31 ans. Donc, il commence à faire vieux pour un télescope.
Ah oui, déjà?
Oui, déjà, il va fêter son 31e anniversaire le 24 avril. Donc, il commence à se casser un peu, à se briser. Il y a des parties qui ne fonctionnent plus.
C'est pas une raison pour arrêter de l'aimer, tu sais.
Non, bien sûr que non. Et en fait, on continue de l'utiliser, mais la NASA ne peut plus mettre des ressources pour le réparer.
Ah oui, OK.
On l'a déjà réparé plusieurs fois, mais tant et aussi longtemps qu'il fonctionne, on va continuer de l'utiliser, mais on ne peut pas continuer de le réparer.
OK.
Donc, on planifie pour un peu, pas son remplacement, son successeur, on dit. On espère que les deux télescopes vont pouvoir travailler ensemble, mais éventuellement, le télescope Webb va prendre le dessus. Et c'est un télescope gigantesque, trois fois plus grand que Hubble, qui regarde un type de lumière différent, la lumière infrarouge, pas la lumière visible. Et c'est tellement immense, en fait, qu'il doit être replié sur lui-même, comme un morceau d'origami, pour être mis dans une fusée puis lancé dans l'espace. Super intéressant comme mission.
OK, et mais attends, là, toi, tu dis que tu fais partie de cette mission-là. Là, c'est pas juste porte-parole pour le Canada. Là, c'est quoi ton rôle exactement?
Vraiment, mon rôle, c'est de s'occuper de toute la vulgarisation scientifique, de toutes les découvertes qu'on va faire.
Donc d'interpréter l'information que le télescope James Webb va aller chercher.
Pas nécessairement interpréter les informations. Il y a des astronomes, une équipe scientifique qui demande du temps sur le télescope, qui vont avoir des données.
Okay.
Eux vont écrire des articles scientifiques. Mais je ne sais pas si tu as déjà lu un article scientifique en astronomie ou autre science.
À tous les jours. C'est sur ma table de chevet.
C'est ça. Mais pour la moyenne des gens, peut-être que toi, tu es au-dessus de la moyenne.
Ben merci.
Mais pour la moyenne des gens, c'est pas nécessairement accessible. Parce que c'est pas le quotidien de tout le monde. Donc, moi, ma job, c'est d'aider à la création de communiqués de presse, de contenu en ligne pour les réseaux sociaux, etc., pour s'assurer que toute la belle science qu'on fait, qui est financée, entre autres, par le public canadien à travers les taxes,
ouais. Ben,
vous comprenez qu'est-ce qui se passe.
Donc, de vulgariser...
Vous savez, vos sous, ça va où,
de vulgariser ces données scientifiques-là.
C'est ça, exactement.
OK. Puis, juste avant, James Webb, là, c'était qui?
James Webb, c'était l'administrateur, celui qui était en charge de la NASA pendant les missions Apollo.
OK.
Donc, c'est pas un scientifique. Et en fait, quand on a nommé ce télescope-là pour James Webb, on voulait un peu mettre l'emphase sur le fait que, oui, les astronomes, c'est super important, les scientifiques, c'est très important, mais souvent, des gros projets comme les missions Apollo, ça peut pas arriver sans des gestionnaires, des gens de project manager qui s'occupent que tous les échéanciers arrivent à temps. C'est pas seulement les scientifiques derrière ça. Il y a toute une grosse équipe, dont James Webb, qui s'est assuré qu'on a été capable d'envoyer un homme sur la Lune.
OK. Quand les pays collaborent comme ça, Nathalie, là, quels sont les profits pour chacun? Là? Qu'est-ce qu'ils en retirent?
Donc, c'est sûr que la première étape, c'est d'avoir pas nécessairement le prestige, mais être capable de contribuer aux connaissances sur l'univers. C'est vraiment de la recherche fondamentale, très pure, c'est sûr. Mais il y a plein de contrats là-dedans qui s'en vont dans l'industrie du pays. Donc ici au Canada, on fait partie de la mission James Webb. Ça, c'est différent en fait de Hubble. Hubble, on faisait pas partie de la mission. Et l'industrie canadienne a profité de contrats. Ça a créé des emplois. Donc, c'est un domaine industriel comme un autre où on crée des emplois, on aide l'économie en produisant des morceaux de télescopes, des instruments, et en plus, ça va vers la connaissance de notre univers.
Donc c'est pas juste des dépenses, là. C'est un investissement?
Oui, c'est un investissement dans notre économie. Et en plus de ce premier investissement-là, souvent les technologies qu'on développe pour ce genre de télescope vraiment incroyable ont des retombées inattendues. On découvre quelque chose en construisant le télescope qui a peut-être une fonctionnalité dans les télécommunications tous les jours ou dans l'Internet ou le Wi-Fi ou les... Peu importe. L'énergie médicale même. Donc, il peut y avoir des belles retombées dans notre quotidien.
Bon. Donc, le Canada, il est pas en compétition là avec les autres pays. Et ce que je lis là, c'est qu'on va avoir accès. Vous autres, vous allez avoir accès à un pourcentage du temps du télescope.
Oui, c'est ça. Donc, nous, on a fait une contribution. On fournit un des quatre instruments scientifiques sur le télescope et aussi une caméra guide super importante qui s'assure que toutes les images prises par le télescope sont claires, nettes et précises. Et en échange, on reçoit au moins 5% du temps du télescope. Donc, les astronomes canadiens vont pouvoir profiter du télescope, vraiment le meilleur télescope au monde, quand il va être lancé plus tard cette année. Et la façon qu'on donne ce temps-là, c'est un processus compétitif quand même, mais une portion de ce temps-là est garantie d'aller vers des astronomes canadiens. Et le premier cycle de compétition vient d'être terminé, on vient d'annoncer les résultats et le Québec en particulier s'en tire exceptionnellement bien.
Comment?
Donc, il y a eu 10 programmes d'observation qui ont été retenus, qui vont être menés par des Canadiens. Ça veut dire la première année que le télescope est en opération, 10 projets canadiens vont être mis sur le télescope et 5 de ces projets-là sont québécois. Quand on pense à la population du Québec au Canada, on n'est pas la moitié du Canada, mais la moitié des programmes canadiens sont québécois et tous ces programmes-là proviennent de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, il reste où je travaille.
Comment expliques-tu ça, Nathalie? On a particulièrement des gros cerveaux au Québec?
Donc, entre autres, on a l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert, juste sur la rive sud du Québec, où je travaille à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Moi, je fais partie de la mission. Le chercheur principal qui a conçu, qui a créé l'instrument canadien, c'est le directeur de l'IREX. Et on a des scientifiques qui travaillent sur l'instrument à l'Institut aussi, à l'Université de Montréal. Donc, on a une équipe vraiment spécialisée au Québec pour ce télescope-là, ce qui nous met vraiment en tête d'affiche en termes d'être capable d'écrire des bons projets pour ce télescope-là.
OK, puis les programmes canadiens et québécois, Nathalie, là, on cherche quoi au juste?
Donc, au Québec, parce que c'est relié à l'IREX, c'est très relié aux exoplanètes. Donc, on cherche des mondes extraterrestres au-delà du système solaire et on cherche peut-être des signes de vie. Donc, il y a un système qui s'appelle TRAPPIST-1 qui a 7 exoplanètes, donc 3 ou 4 qui ressemblent un peu à la Terre. Et on aimerait savoir si c'est des mondes potentiellement habitables ou même peut-être habités.
Ah oui.
Plein de beaux programmes d'exoplanètes. Ailleurs au Canada, il y a aussi des beaux programmes, les premières galaxies qui ont été créées juste après le Big Bang, des trucs sur des trous noirs super massifs au centre de galaxies. Donc, c'est assez éclectique. Mais au Québec, c'est vraiment les exoplanètes.
Imagine une mission habitée qui débarque sur une planète où il y a de la vie, puis on leur apporte la COVID-19.
Oh boy, non, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, même quand on envoie des robots dans l'espace, pas des humains, il y a une décontamination vraiment, vraiment
qui
est faite pour s'assurer qu'on n'envoie pas la COVID nulle part.
bonne affaire, tu sais. Pas besoin de se faire des ennemis sur d'autres planètes en plus, là.
Non, en effet.
Alors, ce lancement est prévu pour quand?
Il est prévu à l'automne 2021. Il y a eu plusieurs délais à travers le projet parce que, entre autres, il va être lancé, ce télescope-là, à 1,5 million de kilomètres d'ici. Ça, c'est 4 fois plus loin que la Lune. Donc, s'il y a quelque chose qui brise, on ne peut pas le réparer comme on a pu réparer Hubble.
Ouais.
Mais il va être lancé cet automne. Tout est encore en marche. Tout fonctionne bien. Donc, on n'a aucun... Aucune raison de penser qu'il va y avoir un autre délai.
OK. Et là, ça, c'est un projet de la NASA, là. C'est pas Elon Musk, là. C'est pas une compagnie privée.
Non. C'est un projet de la NASA, mené par la NASA avec, en collaboration, l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne.
Est-ce que les agences spatiales de divers gouvernements collaborent avec les projets privés de l'espace?
Oui. On pense beaucoup à la NASA qui, eux, ont plus un programme de navette spatiale. Donc, ils dépendent soit des Russes avec les Soyouz pour envoyer leurs astronautes, ou maintenant, ils commencent à explorer des contrats avec SpaceX, justement, pour pouvoir envoyer leurs astronautes, parce qu'eux n'ont pas leur propre navette. Donc, il y a quand même une collaboration privée-publique.
Quand tu as appris qu'il y a des programmes québécois qui ont été acceptés parmi les programmes canadiens, j'imagine que vous avez fêté, vous avez trippé.
Oui, c'est triste parce que je pense que si on était en temps normal, on serait parti dans un bar, on aurait fait un beau au moins 5 à 7, on aurait fêté ça avec de la bière ou je sais pas trop quoi, mais on était tous dans notre coin à la maison, donc on a fêté ça, mais comme on pouvait virtuellement.
En Zoom, hein? Ouais. Bon, on va vivre avec, on va passer à travers. Écoute, on a hâte de voir ça partir cet automne, puis on s'en reparle, c'est sûr. Nathalie Ouellette, merci, à la semaine prochaine.
Merci.
Salut.
Bye.